France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque semaine, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine. La télévision est bonapartiste, le smartphone est populiste et nous vivons avec les deux. Ce n'est pas moi qui parle, mais notre invité du débat qui, médiologue et enseignant, se désespère de voir notre président empêtré dans la rhétorique pour masquer son manque d'autorité. Philippe Guibert signe Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France, aux éditions du Cerf. Et il sera tout à l'heure notre invité pour le débat, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
Que les choses soient très claires, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des crimes d'horreur, et en l'occurrence d'horreur absolue.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
On débute ce midi avec ces propos du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui balaye à l'Assemblée nationale la notion de crime d'honneur qu'on a employé pour qualifier l'acte ayant conduit à la mort du collégien de 15 ans Chem Sedine. L'expression crime d'honneur a été employée après que le procureur d'Evry, Grégoire Dulin, a expliqué que deux frères impliqués dans l'affaire auraient appris que, je cite, leur sœur correspondait avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité. Ils auraient donc voulu protéger leur réputation et celle de leur famille, d'où la notion de crime d'honneur. Gilles, ce sujet est-il sémantique? Qu'est-ce que ça raconte de notre société?
D'abord, cet événement est un événement d'opinion. Il a provoqué de l'émotion, de l'incompréhension, de la projection. Quand vous regardez la hiérarchie des discussions des Français qui a été publiée jeudi dans son baromètre hebdomadaire par l'IFOP, les deux tiers des Français ont parlé de ce crime. C'est très loin devant tous les autres événements de la semaine. C'est 15 points devant ce qu'on a appelé la taxe lapin. C'est 40 points devant les élections européennes dont nous allons parler. Donc c'est un événement d'opinion. Face à cet événement et à cette qualification, je crois qu'il faut à la fois récuser le mot, mais analyser la chose. Récuser le mot, pourquoi? Parce que ce mot a un sens dès lors que l'on adjoint un qualificatif au mot crime. Crime d'honneur, crime passionnel. Cette qualification ne vaut pas absolution, mais elle vaut justification et en tout cas atténuation. Et d'ailleurs, ce concept a une histoire, il a une histoire juridique, puisque jusqu'en 1791, le crime d'honneur existait, et que surtout dans le Code civil de 1810, dans son article 324, eh bien, le meurtre de l'époux sur son épouse peut être excusable. Il peut être excusable, évidemment, sous un certain nombre de conditions, lorsqu'il y a un flagrant délit, lorsque c'est au domicile conjugal, mais c'est cette même idée. Et évidemment, dans une condition asymétrique, c'est-à-dire que c'est le meurtre de l'époux sur l'épouse qui est excusable, mais pas dans l'autre sens. Et puis, il a aussi, et je termine par là, une histoire politique. C'est à chaque fois la même idée, l'idée que à l'attitude des femmes est associée une réputation. L'idée que la vie des femmes ne leur appartient pas totalement, mais qu'elle appartient à quelque chose de plus vaste, à la famille et aux hommes, et que les hommes sont chargés de protéger non pas l'intégrité des femmes, mais la réputation de la famille. Et donc, à chaque fois, ce qui est en jeu, c'est la question de la liberté, de la maîtrise de son propre destin, de l'égalité, notamment de l'égalité entre hommes et femmes. Donc, il n'y a pas de crime qui puisse être qualifié de crime d'honneur, mais, je le disais, on y reviendra, si on récuse le mot, il faut quand même aussi analyser la chose.
Alors justement, la chose, peut-être, Natacha, après cette explication assez limpide sur la notion même de crime d'honneur.
Oui, mais justement, le mot et la chose sont liés. Et le fait que nous ayons autant de débats sur le mot révèle que nous avons un problème avec la chose. La chose, quelle est-elle? Elle est, en fait, la révélation de conception de la famille et des rapports homme-femme, dont on voit bien, ne serait-ce que par le petit rappel historique que vient de faire Gilles, que nous en étions débarrassés en France parce que, de fait, on peut se réjouir de certaines évolutions et notamment du recul assez large du patriarcat en France et en Europe. Ce qui semble plutôt une bonne chose, et contrairement à ce que pensent certaines néo-féministes, oui, le patriarcat s'est largement estompé et tant mieux. Et on voit ressurgir, en fait, cette notion-là, et on comprend bien quel est l'enjeu. On le voit ressurgir dans des populations qui sont d'origine immigrée, qui sont imprégnées d'un islam très littéraliste et qui implique un rapport entre les hommes et les femmes, qui aboutit à ce genre de choses. On peut ajouter même qu'il y a des données anthropologiques, c'est ce qu'on appelle la famille clanique, qui n'est pas du même ordre que la famille nucléaire, c'est-à-dire qu'on voit très bien comment la notion de famille clanique implique ce contrôle des hommes sur les femmes. De la part de jeunes gens, dont on ne sait pas encore quel est réellement leur parcours et il va falloir le regarder, mais qui, a priori, ont de fortes chances d'être né en France, d'être de nationalité française, très certainement, je n'en sais rien, mais on verra. Et c'est donc ce qui doit nous obliger à nous poser quelques questions. J'ajoute que dans le débat sur les mots, il y a ceux d'un côté qui récusent en disant « ça donnerait l'impression d'excuser », et il y a ceux, comme Isabelle Claire, sociologue, qui l'autre jour, sur chercheuse au CNRS, qui réagissait sur France Culture, qui vont dans l'autre sens. Je cite ses paroles. « Parler de crime d'honneur, c'est aussi une ethnicisation d'un type de violence. C'est rapporté non pas à des violences de genre qui sont très bien signifiées, c'est une façon de les particulariser, de les rapporter à une culture étrangère, etc. Et ce qui empêche de comprendre une grande partie des ressorts de cette violence qui a à voir avec le très contemporain, avec la société française, avec d'autres formes d'inégalités qui sont aussi des inégalités raciales. » On voit comment... Ça s'appelle noyer le poisson, en fait. Ça s'appelle dire, bon, d'accord, il y a ce problème-là, mais le pire, c'est le racisme en France. Comme non, avait ouais, quelque ça, chose à voir.
C'est aussi, donc, non, mais c'est aussi dire, il ne faut pas uniquement considérer que ce crime a lieu dans un contexte éventuellement ethnique particulier, mais que ça s'inscrit dans des violences aux femmes et qu'il ne faut pas spécifier
tel ou tel fait. C'est un débat de fond, mais comme l'a rappelé Gilles, le crime d'honneur n'existe plus dans le code pénal, et comme je le disais à l'instant, on a réussi petit à petit à vaincre cette espèce de puissance du patriarcat qui consiste à laisser croire que les femmes sont un objet et sont la propriété des hommes. Tout l'enjeu est là, c'est un enjeu d'éducation, c'est un enjeu d'affirmation de ce qui n'est pas négociable dans la société française.
Gilles, sur la spécificité peut-être de ce crime en particulier
D'abord, plus je viens sur la spécificité, mais sur la question de la violence, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière. Il y a la question de la réalité et des formes de la violence contemporaine. Et cette question-là, la Fondation Jean Jaurès a décidé il y a plusieurs mois maintenant de lancer un groupe de travail là-dessus. C'est un sujet dont il faut se saisir, qu'il ne faut pas occulter. C'est vrai de la violence sur les esprits, avec tout ce qu'il y a autour du harcèlement, sous ces différentes formes, mais c'est vrai aussi de la violence sur les corps, avec cette situation dans laquelle, si on est sur une perspective très longue de siècles, on a un recul de la violence physique, mais si on est sur une perspective plus courte des 20 dernières années, il y a un regain. Et qui est d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est en lien aussi avec cette affaire, qui est de plus en plus dans les relations interpersonnelles. Bon. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est pourquoi ça vient aujourd'hui. Natacha disait à juste titre que cette question-là avait, sinon disparu, du moins qu'elle avait été reléguée plus loin, qu'il y avait eu une avancée du féminisme, un recul du patriarcat. Je crois que c'est lié aussi à un autre phénomène. Les crimes d'honneur étaient liés à des sociétés de l'entre-soi ou des entre-soi dans une société catholique. Il y a eu un recul parce qu'il y a eu à la fois un déclin du religieux, mais parce qu'il y a eu aussi les phénomènes d'urbanisation ont conduit à une forme d'anonymat dans la multitude et qui a créé de la liberté. Et là, on a à la fois le retour du religieux qu'a évoqué Natacha, sauf que ce n'est plus le catholicisme, mais c'est l'islamisme dans sa forme littérale, comme la plus littérale, littéraliste, comme l'a dit Natacha. Mais on a, d'une certaine manière, le retour du village. Sauf que le retour du village, il se fait sous une autre forme, il se fait par les réseaux sociaux, qui est une autre forme de recréer un monde dans lequel tout le monde et en liaison avec tout le monde.
Voire parfois le vrai village, enfin, dit le ghetto où les gens sortent assez peu, c'est aussi même très matériel. Il y a d'ailleurs aussi, j'ajoute qu'il y a aussi l'histoire de Samara à Montpellier, tabassée pour des raisons liées manifestement à l'action de la réputation. On est encore toujours dans cette même rhétorique.
Oui, Gilles a raison de souligner la nouveauté qu'apportent les réseaux sociaux et on voit à quel point cette puissance des réseaux sociaux n'est pas maîtrisée par des jeunes gens qui la subissent, et en particulier les jeunes filles. Et l'histoire de Samara, même si là aussi il est nécessaire de creuser, oui, d'attendre vraiment ce que va donner l'enquête, mais il y a eu des reportages sur place, et on commence à percevoir à peu près certaines données, et en effet, il est question de réputation au sens large, c'est toujours la réputation des filles dont on parle, hein. Et il est question de cette violence à travers les réseaux sociaux, qui sont un amplificateur et qui permettent à la fois le contrôle, la mise d'un individu sous le regard d'une communauté et en effet la question de la liberté des jeunes filles. Pour autant, il y a aussi la pression que vous soulignez, Thomas, qui est la pression de la communauté, de ce village que constitue le quartier, et il faut quand même admettre qu'il y a dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de banlieues françaises, un poids sur les filles qui est signalé depuis 20 ans. C'était déjà dans ce fameux livre qu'on a trop lu à l'époque, Les territoires perdus de la République. La pression sur les jeunes filles est une monstruosité et il faut quand même le souligner, c'est-à-dire qu'il y a le poids de la famille clanique et de la façon dont on contrôle le corps des femmes.
Le grand face-à-face, le duel.
Il faut qu'on puisse entrer plus facilement dans la fonction publique, qu'on puisse être promu plus facilement dans la fonction publique et qu'on puisse en sortir plus facilement. Le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946 quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Je vais vous donner un chiffre. Il y a dans l'État 2,2 millions d'agents publics. L'année dernière, il y a eu 13 licenciements.
Stanislas Guérini au micro de Simon Le Baron sur Inter cette semaine. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a lancé ce mardi les concertations avec les syndicats sur sa réforme de la fonction publique. Parmi les pistes à l'étude, on vient de l'entendre, mieux sanctionner les insuffisances professionnelles des fonctionnaires, accentuer la rémunération au mérite, faciliter les mutations d'une branche à l'autre et un tabou sur lequel j'aimerais qu'on revienne, le licenciement, le cas échéant. Natacha, c'est un tabou qu'il convient de faire sauter aujourd'hui ?
Alors, je trouve que cette séquence, comme on dit aujourd'hui, de quelques jours que nous avons vécu depuis cette réunion de concertation du 9 avril, a quelque chose de caractéristique. C'est-à-dire que le ministre de la fonction publique se réunit avec les syndicats. Il y a un document qui est remis aux syndicats au préalable. Ce document évoque différentes pistes. Et le ministre donne ensuite une interview dans Le Parisien, dans laquelle il parle du tabou du licenciement. Alors, ce terme tabou, en général, quand on l'entend, immédiatement, il y a les gyrophares qui doivent s'allumer. On doit se dire, attention, une stupidité va être dite. Et en l'occurrence, c'est exactement cela. Pourquoi ? Parce que les syndicats ont immédiatement hurlé, à mon avis, à juste titre, dans la mesure où il n'était pas question de tabou des licenciements dans le document qui leur a été remis, mais au contraire d'une réflexion à mener sur ce que dit tout à fait le ministre là au micro de France Inter, à savoir la question du dévoiement de la garantie de l'emploi, la réflexion qui doit être menée sur le fait de savoir ce qu'on fait quand un fonctionnaire a visiblement un problème dans son emploi. Et dans le document en question, il était expliqué que le problème est justement qu'il n'y a pas de gradation et que la seule réponse est le licenciement. Puisque, de fait, ça existe, alors c'est très très rarement utilisé, 13 cas en 2022 sur 2,2 millions de fonctionnaires, ça n'est pas énorme, mais ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de RH, tout simplement, dans la fonction publique, c'est bien le problème. Et ça se transforme, dans une interview au Parisien, en cette phrase absurde, il faut revenir sur le tabou du licenciement, ce qui est le contraire de ce qui était normalement la base de discussion avec les syndicats. Pourquoi ? Parce que là, on s'adresse à un électorat, et que à cet électorat, Il s'agit de dire, nous n'avons peur de rien, nous allons réformer ce qui, en langage contemporain, signifie nous allons retirer des acquis sociaux, des droits et tout ce qu'on veut. Et c'est donc un message à un électorat plutôt de droite en période de campagne électorale. Je trouve que c'est une très mauvaise manière à faire à la fonction publique française parce qu'il y a une réflexion de fond à mener sur le rôle de l'État, sur la question de savoir pourquoi on a tant de mal à recruter dans ce supposé paradis qu'est la fonction publique, et en particulier dans des métiers essentiels, mais qui sont ceux qui sont au contact d'une population de plus en plus exigeante, de plus en plus agressive, de plus en plus en position de créance vis-à-vis de l'État. Toute cette réflexion-là mérite mieux qu'une phrase politicienne.
Électoralisme, on parlait de violence tout à l'heure, est-ce que c'est une forme de violence aussi?
Bon, ce qui est certain, c'est que ces annonces interviennent dans un contexte, même dans un double contexte, qui est celui du débat sur les économies budgétaires et de la campagne sur l'élection du Parlement européen. Alors si on accepte l'idée que cette réforme proposée est indépendante du contexte,
Vous avez fait une moue pour les gens qui
nous
écoutent.
Oui, j'ai fait une moue, parce que non, c'est pas impossible s'agissant de la dimension budgétaire. En revanche, c'est sans doute plus discutable, et Natacha l'a dit, s'agissant de la dimension politique. Bon. Mais si on revient sur le fond, je crois que de manière incontestable, il y a une crise de la fonction publique, une crise d'attractivité dans beaucoup de domaines, et une crise de la satisfaction à la fois des agents qui s'estiment mal payés, mal considérés, maltraités, et de plus en plus des usagers, où on voit année après année que à la fois l'opinion et la satisfaction des usagers est en recul. Et je crois que la réforme de l'État sera un des grands échecs des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, mais si on veut être honnête, c'est sans doute un échec qui remonte à plus loin, ça fait au moins 20 ans que c'est un échec collectif, et je crois que ça sera un des grands enjeux de la campagne présidentielle de 2027. Une fois qu'on a dit ça, d'où vient le problème ? Il y a sans doute une dimension, qui n'est évidemment que peu abordée là, qui est une dimension financière. Il y a une réalité d'effectifs insuffisants dans certains domaines, de rémunération insuffisante, mais je crois que c'est une illusion de penser que augmenter les effectifs et augmenter les rémunérations à soi seul résoudra le problème. Oui. Il y a un autre problème dont on parle, je crois, beaucoup trop peu, qui est un problème d'organisation. On reste sur une organisation de la fonction publique, des fonctions publiques, qui est trop centralisée, trop hiérarchisée, trop processée. Et il faut redonner de l'autonomie, il faut redonner de la responsabilité, définir davantage les objectifs, laisser beaucoup plus de liberté sur les moyens. En gros, il n'y a pas de management dans la fonction publique, où il y en a trop peu. Est-ce qu'il y a en plus un problème de statut ? Alors c'est possible sur certains sujets, mais c'est là où il faut regarder. Ce qui est certain, c'est que rentrer par la question du licenciement, qui est un sujet en réalité marginal, est le meilleur moyen pour bloquer le tout. Mais si on prend un exemple qui est celui de la mobilité, Stanislas Guérini le dit, il y a insuffisamment de mobilité, c'est un sujet qui est un vrai sujet. Il y a de la mobilité géographique dans un certain nombre de professions, par exemple dans l'éducation nationale. Il y a de la mobilité fonctionnelle, c'est-à-dire que vous changez de postes, notamment pour les hauts fonctionnaires. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a peu de mobilité. La question, c'est est-ce que c'est le statut qui l'empêche, ou est-ce que ce sont les différences de grille salariale entre les ministères?
Et les catégories aussi.
Et les catégories.
B et C, l'idée, c'est de peut-être les faire disparaître.
Et est-ce que c'est la culture des administrations qui, en réalité, est très réticente à la mobilité, à voir ses agents partir dans une autre administration? Donc, ça, ces questions-là, je crois, sont des bonnes questions. Après, pour finir, je crois que le débat est mal engagé pour une raison qu'a évoquée Natacha, c'est que quand il y a un décalage entre ce qui est discuté dans la réunion de concertation et la communication qui suit après, eh ben, vous crispez. Lorsque le calendrier est un calendrier qui est un calendrier manifestement trop serré, vous crispez. Lorsque il y a une provocation qui est une provocation comme le licenciement, vous crispez. Et lorsque Alain Duhamel dit sur la méthode, c'est lamentable, Et qu'on voit qu'il doit y avoir un problème.
Quand on a crispé Alain Duhamel, c'est qu'on a crispé tout le monde.
J'ajoute d'ailleurs que faire ça à 3 mois des Jeux Olympiques, quand on craint que des syndicats comme la CGT ou Force Ouvrière n'utilisent cette vitrine, ce qui serait déplorable à mon avis, mais pour mettre en œuvre une grève et faire pression, ça n'est pas... Voilà, c'est un minima un peu risqué, mais j'ajoute juste un point sur ce que disait Gilles, parce que je souscris à sa réflexion sur ce qui devrait être au cœur d'une réforme de l'État. J'y ajoute, en effet, il a esquissé l'idée que la question est celle beaucoup du reporting, de l'inflation administrative, de la lourdeur qui...
Attention, on va avoir beaucoup de courriers du médiateur, hein, parce que on a entendu processer, management, reporting.
Oui, reporting, c'est-à-dire le contrôle, en fait, l'obsession du contrôle qui, sous prétexte d'améliorer la performance, en fait, alourdit absolument tout et détruit l'intelligence des individus. J'y ajoute encore un point, c'est que c'est la fonction publique territoriale qui a énormément augmenté sur les 20 dernières années, alors même qu'il y a 20 ans, je ne pense pas que la France était sous-administrée. Oui. Et là, il y a une réflexion à mener sur la décentralisation, sur peut-être parfois la tentation de maquiller le chômage par une embauche de fonctionnaires territoriaux. Je pense qu'en effet, il y a une vraie réflexion à mener là-dessus.
Vous écoutez, il y a un débat plus important et plus profond à mener qu'uniquement soulever un tabou.
Bien sûr.
L'alerte rouge du tabou que vous avez évoqué tout à l'heure.
Le grand face-à-face, le duel.
L'Union européenne se construit, je le crois aujourd'hui, bien trop souvent contre l'intérêt des peuples, en imposant une submersion migratoire qu'une majorité de peuples en Europe rejette, en imposant une décroissance économique et une décroissance agricole qui a mis des milliers d'agriculteurs français et européens partout dans les rues du pays, et évidemment un empilement de normes toujours plus complexes pour nos chefs d'entreprise. Et je suis, moi, précisément dans ces élections européennes, le candidat de l'Europe des nations et de l'Europe des réalités face à ceux qui défendent l'Europe fédérale.
C'était Jordan Bardella face à Raphaël Glucksmann hier matin sur France Inter. Gilles, cette vision de l'Europe semble aujourd'hui l'emporter, à suivre les enquêtes d'opinion. La liste RN est donnée largement en tête, gagnante à 30%, peut-être même au-delà des suffrages le 9 juin prochain, c'est dans moins de 2 mois. Est-ce que la victoire très large du RN est une fatalité?
Natacha faisait référence aux Jeux Olympiques, pour continuer à filer la métaphore. Si les élections présidentielles sont un marathon, l'élection au Parlement européen, c'est un 400 mètres. C'est l'élection du dernier tour de piste. Et donc, je ne sais pas si les Français vont entrer dans la campagne, mais en tout cas, ils n'y sont pas encore complètement entrés.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde les élections précédentes, ça se joue dans les derniers jours, presque?
Alors, ça veut dire que c'est une élection dans laquelle la mobilité est moins forte qu'une élection présidentielle, beaucoup moins forte, mais elle existe quand même et elle se fait vraiment à la fin. Et donc, il faut quand même être prudent. Une fois que j'ai dit ça, votre question, est-ce qu'on va vers un triomphe du Rassemblement National? Ce qui me semble acquis, voire ce qui me semble certain, c'est que le Rassemblement National va finir en tête. Ça ne sera pas nécessairement un triomphe, mais ça sera une victoire. D'ailleurs, c'est une habitude, puisqu'il a déjà été en tête en 2019 et qu'il a même déjà été en tête en 2014. Ce qui me semble acquis aussi, c'est qu'il va faire un score élevé, vraisemblablement le score le plus élevé de l'histoire du Rassemblement National, et peut-être le score le plus élevé de toutes les listes depuis 40 ans.
D'accord.
Bon.
Ce qui me semble... Toutes listes confondues.
Toutes listes confondues. Oui. Ce qui me semble probable, c'est que cette élection accélère et achève la mutation du Rassemblement National comme un parti attrape-tout. C'est-à-dire un parti qui touche toutes les catégories, toutes les géographies. Aujourd'hui, dans les enquêtes, on va voir si ça se traduit... Le 9 juin, il y a le plafond de verre démographique qui est brisé. C'est-à-dire qu'il y a une percée chez les plus de 60 ans du Rassemblement National. Il y a, sur le plan politique, une percée dans la droite classique. Et il y a, sur le plan géographique, une percée dans un certain nombre d'endroits. On va regarder ce qui se passe en Bretagne. Après, le seuil des 30%. Il est le seuil symbolique des 30%. Il est évidemment incertain. Et puis, la transformation de tout ça, après, elle est là encore, évidemment, plus incertaine encore.
Natacha.
Il faut avoir en tête que les élections européennes sont des élections assez particulières, dans la mesure où la proportionnelle induit malgré tout, même si les Français en effet rentrent très tard dans la campagne, induit une façon de voter qui n'a rien à voir avec les autres élections. Et il faut se souvenir qu'il y a régulièrement des dynamiques d'ailleurs assez intéressantes, assez parlantes, mais parfois sans lendemain, à l'occasion des élections européennes. Mais elles sont intéressantes à regarder. Pourquoi ? Parce que si vous remontez, par exemple, ça commence à dater, mais 1999, la dynamique de la liste Pasqua-Villiers qui passe devant la liste UMP de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce qu'on est dans les années qui suivent le traité de Maastricht et avec cette volonté d'exprimer une inquiétude, voire une colère ou un rejet. Ça raconte quelque chose de l'état de l'opinion. Quelques années plus tard, quand vous avez en 2009 la poussée d'Europe Écologie Les Verts, qui d'ailleurs, au dernier moment, puisqu'en fait le parti qui faisait une poussée pendant la campagne, c'était plutôt le Modem, et tout à coup, à la suite d'une confrontation entre Danny Cohn-Bendit et François Bayrou, Bayrou s'effondre et Cohn-Bendit passe devant. C'est-à-dire que vous avez en effet des cristallisations tardives et qui expriment la volonté de la part des Français d'envoyer un message qui est en fait un message idéologique de fond, c'est-à-dire l'inquiétude sur les questions écologiques. Yannick Jadot en a profité aux dernières élections. Ou alors l'inquiétude sur la construction européenne elle-même. Or, je ne crois pas que la poussée du Rassemblement national jusqu'à 30% signifie ce même genre de dynamique précise, mais en effet, comme l'a dit Gilles, un parti attrape tout, une façon d'agréger, non pas des gens qui voudraient remettre en cause la construction européenne, mais des gens qui veulent exprimer que le système en général va contre eux. En revanche, si on regarde le reste des listes, la poussée de Raphaël Glucksmann raconte quelque chose de la recomposition à gauche, et justement d'un éclatement de la gauche face à un Rassemblement national qui, lui, peut absorber l'ensemble de l'électorat.
Gilles, un mot ?
Oui, juste un mot. Évidemment, on se concentre beaucoup sur le Rassemblement national parce qu'il fait la course en tête. Je crois qu'au-delà du Rassemblement national, il va falloir regarder le poids global des extrêmes droites. Quand vous regardez les projections en sièges aujourd'hui, parce que le vote se traduit après par des sièges, le total reconquête et Rassemblement national, ça serait 38 sièges sur 81. Ça veut dire que près de la moitié des députés français qui sont envoyés à Strasbourg viendraient des extrêmes droites. Il faut regarder le poids et les rapports de force à l'intérieur de la gauche. Natacha l'a dit, la dynamique aujourd'hui, et ça fait longtemps que ce n'était pas le cas, est autour de la liste conduite par Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste et Place Publique, qui reconstitue un électorat qui s'était éparpillé par ces deux ailes à la présidentielle vers Mélenchon et vers Macron. Et puis le dernier point, c'est jusqu'à quel endroit on va aller de la rétraction du macronisme. Vous avez aujourd'hui deux électeurs sur trois qui disent vouloir voter pour la liste Renaissance qui ont plus de 60 ans. Donc cette rétraction démographique qui derrière est une rétraction sociologique, il faut regarder jusqu'où elle va aller et quelles vont être ses conséquences sur l'affaiblissement du président de la République et la fin de son second quinquennat.
Très belle transition pour recevoir notre invité puisqu'on va beaucoup parler d'Emmanuel Macron mais plus largement de la figure du président sous notre 5e République. Place au débat.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Philippe Guibert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant, enseignant à l'École des hautes études internationales et politiques, auteur de Gulliver, enchaîné, le déclin du chef politique en France, aux éditions du Cerf, même si parfois le président de la République qui semble un peu déchaîné.
Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
Alors, on va essayer de comprendre pourquoi Gulliver, pourquoi est-il enchaîné. On vient d'entendre le président de la République, Emmanuel Macron, évoquer, un tabou, qui serait celui de l'envoi de troupes un jour face à la Russie de Vladimir Poutine. À vous lire, les institutions de la Ve République permettaient au président d'être un Gulliver pas enchaîné. Mais dans ce qu'on a écouté là, ce qui est intéressant, c'est les réactions après. Tout le monde a critiqué Emmanuel Macron. Alors qu'on comprenne bien, est-ce que c'est le président lui-même qui s'enchaîne, les institutions, ou bien le contexte qui le ramène à la raison, qui l'enchaîne ?
Je crois qu'Emmanuel Macron a voulu trouver un sens, à travers ses déclarations sur la guerre en Ukraine, a voulu essayer de trouver un sens à son second quinquennat, qui, depuis sa campagne électorale, en est largement dépourvu. Ça a été beaucoup une élection par défaut, par rejet de Marine Le Pen. Et que là, il s'est dit, c'est ça le sens de mon second quinquennat. Et donc, il a essayé de trouver la posture du chef de guerre, qui est une posture historiquement fondatrice du rôle de chef. Et que beaucoup de ses prédécesseurs ont essayé, avec des succès très relatifs, dans nos interventions extérieures, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc je crois qu'Emmanuel Macron, dans un second quinquennat, où il va d'une crise à l'autre, où il oscille, on en parlera peut-être, entre le rôle de gestionnaire et d'urgentiste,
voilà,
a essayé de trouver un sens à son quinquennat, qui est de dire « je suis le leader de l'Europe qui va défendre l'Europe et la France contre les ambitions impérialistes de Vladimir Poutine ». Le problème est que je suis pas sûr que les Français ont perçu la menace existentielle sur leur pays et que cette posture de chef de guerre, au lieu de rassurer et de rassembler, a plutôt inquiété.
Alors, ça c'est vraiment sur le cap d'école qu'on vient d'entendre.
Bien sûr.
Si on élargit, est-ce que vous vous dites, tiens là, c'est une tentative quand même d'un président de retrouver l'esprit de la Ve République? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les réactions qu'il y a eu après.
Ouais.
Une sorte de rappel à l'ordre du président de la République. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un président ne peut plus être le président gaulliste ou gaullien, voire le général de Gaulle de 1958. C'est plus possible aujourd'hui.
Alors, il y a évidemment un changement de contexte qui est très important. Enfin, c'est une banalité de le dire. J'essaye de le détailler un petit peu dans mon livre. Il me semble qu'il y a trois changements majeurs qui, en plus, ont été concomitants. C'est le fait des circonstances. Autour des années 2005-2007, premier changement institutionnel avec le passage non seulement au quinquennat, mais à un certain calendrier électoral qui fait des législatives des sortes d'élections de confirmation de la présidentielle. Je vais y revenir. Ça induit un changement profond dans le fonctionnement de la Ve République. Un deuxième changement qui est concomitant, mais c'est un hasard, hein, c'est en même temps le moment de la révolution numérique de l'information, l'arrivée du smartphone, l'arrivée des chaînes d'infos en continu, ou leur développement sur la TNT. Et tout ça change le rapport entre le leader et puis le citoyen, la multitude citoyenne.
En quoi ?
Eh ben parce que tout simplement, la révolution numérique induit une désintermédiation fondamentale, et que le président de la République, qui avant s'appuyait sur un grand parti, le Parti Socialiste ou les héritiers du gaullisme ou du giscardisme, aujourd'hui est à la tête d'un mouvement gazeux dont on ne sait pas s'il existe en dehors de son bureau. Et c'est frappant de voir que les deux grands leaders en compétition avec Emmanuel Macron, je veux dire Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ont aussi deux partis qui n'ont plus rien à voir avec les partis d'avant, qui sont des partis qui n'existent que nationalement, qui sont très peu implantés localement, dont le rôle dans la formation de l'esprit public est relativement faible, parce que c'est avant tout deux leaders, et que le rôle des partis et le rôle des corps intermédiaires de manière générale est beaucoup plus faible qu'avant. Et puis troisième élément qui est aussi concomitant, c'est celle des crises de la globalisation qui commence avec le krach financier en 2007-2008 et qui percute le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et puis ensuite François Hollande qui lui est confronté à la crise du terrorisme, voire à la crise migratoire qui est aussi concomitant de cette période-là. Et puis Emmanuel Macron est confronté à toute une série de crises, évidemment celle du Covid, mais on pourrait rappeler que les gilets jaunes, le point de départ, c'est une augmentation mondiale du prix de l'essence qui percute aussi la France, donc c'est la globalisation qui vient percuter le territoire national. Dans ce contexte, ça nous donne un président de crise en continu, qui est tout le temps obligé de mettre les mains dans le cambouis, et donc la prise de hauteur et de distance gaullienne ou gaulo-mitterrandienne est quand même un peu plus compliquée. Et puis c'est un président qui doit constamment alterner, dans le cadre de l'Union européenne, entre un rôle de réformateur pour essayer de tenir les dépenses et de défendre la signature de la France, et en même temps, à chaque crise, est obligé de donner de l'argent public et de la dépense publique. Et donc, cette schizophrénie du chef me semble être vraiment une rupture par rapport au président d'avant. Donc, moins de distance, donc moins de prestige, moins de capacité à déterminer une politique à moyen terme ou à long terme, et un enfermement sans retour devant le peuple dans le cadre du quinquennat, avec ce calendrier législatif où il n'y a plus ni référendum ni dissolution.
Et vous n'avez pas employé le terme, mais surtout moins d'autorité. Je pense qu'on va y revenir parce que c'est le cœur de votre...
Une crise d'autorité et une crise de légitimité.
C'est le cœur de votre livre. Natacha Polony.
Alors, en préambule, je voudrais dire à quel point j'ai trouvé ce livre absolument passionnant.
Merci.
Dans la mesure où il ouvre un nombre de réflexions extrêmement intéressantes et surtout des réflexions que je trouve essentielles, notamment la question qui est au cœur de votre livre, finalement, de la possibilité de trouver un chef en démocratie, un chef qui ne soit pas l'écrasement des masses, mais qui au contraire et qui ne soit pas non plus le fantasme de la révélation d'une volonté du peuple, comme peuvent l'être justement aujourd'hui des mouvements dits populistes.
Oui.
Donc toute la question est de savoir en effet comment on invente cette posture du chef. Et je me suis fait souvent la réflexion à laquelle vous donnez écho dans votre livre, qu'aujourd'hui, entre les pratiques d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Zemmour, notamment sur les réseaux sociaux, ces mouvements-là utilisent des trolls, c'est-à-dire utilisent des armées de gens, ce qui pour notamment un mouvement comme Renaissance semble assez contre-intuitif dans la mesure où c'est censé être un mouvement justement qui ne pousse pas à la radicalité, qui est censé être modéré, et on a en effet ce temps des gourous adulés par leur base. Vous l'expliquez très bien dans le livre, pourquoi sommes-nous passés à cette ère et y a-t-il aujourd'hui la possibilité d'éviter que les chefs politiques ne soient des gourous ?
Philippe Guibert.
Oui, alors vous avez raison. Le système numérique vous oblige à être un candidat anti-système. Et donc, ça vous pousse à la radicalité. Même Emmanuel Macron, qui est censé être un centriste modéré et raisonnable, s'est posé en 2017 comme anti-système du système politique. Et donc, vous êtes dans un univers où vous devez être contre le système. Alors Marine Le Pen sera contre un autre système, celui de ce qu'elle appelle le mondialisme. Jean-Luc Mélenchon sera contre un autre système, celui du capitalisme et de la Ve République. Mais vous vous posez d'abord contre. Et donc vous êtes dans une posture radicale. Le deuxième élément qui vient conforter cette dimension de la révolution numérique, c'est la tripartition de l'électorat. C'est-à-dire qu'on n'a plus des leaders qui cherchent à rassembler. Peut-être pour moi, c'est ça le point le plus important. On n'a plus des leaders qui cherchent à rassembler, on a des leaders qui cherchent à être les leaders d'un bloc, en faisant le calcul qu'en ayant 25%, un peu moins, un peu plus, on peut être au deuxième tour, et si on est au deuxième tour contre Marine Le Pen, on peut gagner. Et donc on peut gouverner 5 ans en étant le leader d'un bloc qui va osciller entre 20 et 30%. Et ça veut dire qu'en termes de posture présidentielle de chef, en termes d'autorité et de légitimité, c'est un changement tout à fait profond, puisque si vous ne cherchez plus à rassembler, vous êtes par nature un président minoritaire et un chef minoritaire. Et donc ça veut dire que vous comptez uniquement sur un deuxième tour de rejet, pour ensuite compter sur des législatives où avec vos 25% et la prime majoritaire liée au mode de scrutin, vous allez avoir une majorité qui sera absolue ou relative, et avec ça, vous allez pouvoir gouverner pendant 5 ans. Là, il y a une profonde inversion. Donc, si vous voulez, entre la révolution numérique, et ce qu'elle entraîne comme posture anti-système, et notre révolution institutionnelle du quinquennat, qui vous permet de gouverner avec 25-30%, vous avez en effet des leaders qui sont des leaders d'un bloc, et qui ont renoncé à cette ambition qui était fondatrice, hein, de la Ve République, qui était non seulement d'avoir recours à l'arbitrage populaire, de revenir devant le peuple en cas de conflit entre les pouvoirs, mais aussi profondément de Gaulle à Mitterrand, voire à Chirac, la volonté de rassembler. Alors on n'en est plus à Giscard d'Estaing qui voulait gouverner avec 2 Français sur 3. Là, on est avec un président qui veut gouverner avec 25%. C'est vrai d'Emmanuel Macron, mais que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ils auraient été dans des situations comparables.
En vous écoutant, on a l'impression qu'on n'a pas tiré dans la classe politique la bonne leçon du 21 avril 2002.
Exactement.
Une leçon plutôt électoraliste qu'une leçon idéologique ou politique, j'ai l'impression.
Exactement, vous avez tout à fait raison.
Gilles.
D'abord, cet essai est un vrai bon essai politique et il n'y en a pas beaucoup. C'est un essai sur le chef, mais c'est un essai au-delà sur la démocratie contemporaine, dans laquelle il y a à la fois une qualité de réflexion, une qualité d'écriture et une volonté de lucidité de regarder le monde tel qu'il est. Après, on peut être d'accord avec tout ou avec tout ou partie du livre, mais c'est un vrai bon essai politique. Je voudrais revenir sur la mise en perspective historique, avec une question sur l'histoire. longue et une question sur l'histoire courte. Sur l'histoire longue, vous expliquez que, en gros, l'ami du chef, c'est la droite, et que l'ennemi du chef, c'est la gauche. Je le dis de manière un peu caricaturale, mais c'est un peu ça, en revenant à la genèse de la création du clivage gauche-droite dans notre pays. Et vous montrez d'ailleurs à quel point la gauche finit par, y compris, sacrifier ses propres leaders par ennemi du chef. Bon. Est-ce que l'ennemi du chef, c'est la gauche, ou est-ce que c'est la démocratie libérale qui trouve que le pouvoir risque d'abuser de son pouvoir et qu'il faut qu'il y ait donc des contre-pouvoirs? Et deuxième question sur l'histoire courte, vous l'avez évoqué d'un mot, j'ai été frappé parce qu'à beaucoup de moments, il y a une date qui revient, qui est la date de 2007, oui, comme un véritable tournant. Vous l'avez évoqué sur le quinquennat, avec la concentration, le début d'une concentration renforcée des pouvoirs. Vous l'avez évoqué avec le smartphone, la démocratie continue, ce populisme obligatoire que vous évoquez dans le livre. Mais il y a aussi une troisième dimension, qui est la fusion du public et du privé, le fait qu'il n'y ait plus d'espace public. Et là aussi, 2007, de ce point de vue-là, est une amplification.
Philippe Guibert, ça veut dire quoi d'abord, la fusion entre l'espace public et l'espace privé?
C'est la fin de la séparation qui existait de façon très forte jusqu'à Mitterrand et encore plus jusqu'à Sarkozy, entre la vie publique et la vie privée. Mmh. Aujourd'hui, les présidents de la République, regardez, Emmanuel Macron a fait campagne en 2017 en faisant des unes de magazine People avec son épouse pour illustrer qu'il était un couple atypique et que le fait d'être dans un couple atypique était presque un argument politique. Et donc on est passé d'une séparation étanche, avec beaucoup d'hypocrisie, hein, bien entendu, à une situation où la vie privée devient un élément argumentaire et sur lequel le mensonge et où l'hypocrisie est beaucoup moins, est beaucoup plus difficile. Alors pour revenir à la gauche et la droite déjà, oui, c'est vrai qu'historiquement la gauche se construit septembre 1789 sur une opposition au rôle du roi, au droit de veto, pour être précis, que les constituants discutent en 1791, et tout au long du 19e siècle, et tout au long de la Troisième République, la gauche a beaucoup de mal à accepter un pouvoir exécutif fort. Donc il refuse le pouvoir du président de la République, mais le chef de substitution qui s'appelle le président du Conseil est un chef qu'on rabote d'abord dans la durée, hein. Troisième et Quatrième République, les présidents du Conseil, ils ont la durée moyenne, c'est 6 à 7 mois. Et alors, de fait, Gilles, tous les leaders de la gauche qui ont laissé une trace de l'histoire en ont été victimes. C'est vrai de Gambetta, c'est vrai de Jules Ferry, c'est vrai de Mendès-France, c'est vrai de Léon Blum. Et donc, peut-être hormis Clémenceau, qui venait de la gauche, qui a réussi par la Première Guerre mondiale et grâce à la Première Guerre mondiale. Donc la gauche a eu beaucoup de mal, et c'est tellement vrai qu'elle s'est d'abord opposée fortement à la solution que de Gaulle proposait, qui a quand même le mérite de résoudre notre équation qu'on traîne depuis la Révolution française.
De l'élection du président au suffrage universel direct.
Exactement, qui nous permet de résoudre cette contradiction entre un pouvoir arbitraire et une république sans pouvoir, une république sans tête, qu'a porté la gauche. Et il y en a un qui l'a compris, la gauche, il s'appelle François Mitterrand, et qui en a fait le levier de son accession au pouvoir. Mais ça a été une parenthèse. Et donc la gauche, regardez...
Une parenthèse?
Oui, ça a été une parenthèse.
Il y a eu François Hollande après, la gauche... Oui, vous croyez que la gauche, rompu avec le présidentialisme?
Oui, je trouve. On pourrait faire une analyse du quinquennat de François Hollande en disant qu'il n'a pas vraiment incarné la fonction présidentielle dans la tradition gaullo-mitterrandienne. Ce n'est pas lui faire insulte de dire qu'il s'est peut-être plus conçu comme un premier ministre ou un président du Conseil, si on veut être un peu polémique, qu'est comme un président de la République. Et depuis, la gauche ne rêve que de faire la Sixième République. Jean-Luc Mélenchon porte une Sixième République, c'est d'ailleurs assez amusant, parce que il porte une Sixième République hyper parlementaire, alors que sa pratique de chef de parti n'est pas précisément très parlementaire et démocratique. Bref. Et donc oui, c'est une parenthèse, et donc la gauche a du mal avec cette idée du leadership. Mais là où vous avez raison, c'est que la démocratie libérale telle qu'elle s'est construite avec l'Union européenne, avec les contre-pouvoirs juridictionnels, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, et de la Cour de justice, des différentes cours européennes, les démocraties libérales ont conçu la démocratie comme un comme un système où on devait à tout prix empêcher le chef de faire des bêtises. Alors c'est vrai que le chef peut faire des bêtises, c'est dans la nature de la politique. Mais avec ce problème, qui est qu'à vouloir trop empêcher le chef et à l'enchaîner comme Gulliver par les Lilliputiens, le chef ne peut plus tellement répondre à la demande populaire dont il est aussi l'émanation, puisque en démocratie, aux dernières nouvelles, vous pouvez certes prendre des mesures impopulaires, vous pouvez certes, à un moment donné, dire il faut décider des choses difficiles. Mais vous ne pouvez pas durablement gouverner contre le peuple ou contre la majorité du peuple, sans quoi vous allez dans le mur et je crains qu'on s'en rapproche.
D'où ce paradoxe, sous la plume de Régis Debray, oui, que vous citez. Deux choses menacent une société, le chef et l'absence de chef, Natacha.
Oui, j'ajouterais que vous évoquez à un moment donné cet élément essentiel et qui prolonge ce que vous venez de dire, à savoir qu'un chef doit gouverner pour les petits. Et que peut-être là une des clés de la colère grandissante qu'on voit naître à travers les différents votes, à travers les quasi-émeutes que peut vivre la France, c'est-à-dire la question de savoir à qui profite le pouvoir. Vous citez Machiavel, ce ne sont pas les petits qu'il faut surveiller, ce sont les grands, parce que le chef, justement, devrait s'appuyer sur les petits contre les grands. Vous citez Absolument. Napoléon, souverain, protégez donc les petits si vous voulez qu'ils vous protègent. Et derrière, je prolonge sur ce que vous donnez comme la définition d'un vrai chef, qui semble le miroir inversé de ce que nous voyons aujourd'hui, puisqu'il y faut du caractère. Or, on a l'impression que l'époque actuelle sélectionne des narcisses. Il y faut du prestige. Or, vous le disiez, il s'emploie à, justement, trop souvent à être haï par le camp d'en face. Et il y faut un idéal. Quel est cet idéal pour faire un chef et pour permettre justement que ce chef n'abuse pas de son pouvoir et s'occupe des petits?
Les portraits robots du chef.
Alors, le portrait robot du chef, je suis allé quand même le chercher, il faut pas le répéter, hein, mais je suis quand même allé le chercher dans le fil de l'épée du général de Gaulle, hein, parce que le caractère, prestige et grande querelle, ce sont les trois éléments du fil de l'épée que le colonel de Gaulle, en 1932, définit de façon absolument géniale. D'abord, oui, Machiavel est génial, lui aussi, parce que c'est un peu contre-intuitif. L'adjectif machiavélien vous conduit à penser que le chef est un homme affreux qui doit tout le temps dissimuler et manipuler. Machiavel dit, le prince, doit avoir besoin de l'affection populaire. Et il est dans une réflexion pré-démocratique, puisque au début du XVIe siècle, on n'est pas exactement encore dans une démocratie. Mais lui a compris que c'est ça l'équilibre fondamental d'un pouvoir, l'affection populaire, donc de la majorité, comme le disait Natacha, des petits, contre les grands. Le type idéal du chef, effectivement, le chef, il doit être au service de plus que lui-même. Et plus que son pouvoir, il doit être au service d'une grande querelle. Il a toujours besoin de cette grande querelle en surplomb. Le problème de notre époque, et là c'est pas, ça ne renvoie pas aux défauts, aux qualités des personnes, des personnalités qui se présentent, est que nous sommes, le marché de l'espérance est un peu asséché. Nous vivons dans une période où on passe d'une grande querelle avec une espérance, avec un idéal futile, inaccessible, à une période où on est sur le dans un imaginaire de la menace, dans un imaginaire de la peur. Et donc j'essaye de comprendre un petit peu comment dans l'opinion française se construisent ces peurs et les leaders qui essayent d'en être. Alors il y a la peur du grand réchauffement climatique, il y a la peur du grand remplacement à l'opposé politique, mais
qui sont pas absolument de même nature.
Qui sont pas de même nature, mais y compris dans ce qui apparaît le plus scientifique, c'est-à-dire le réchauffement climatique, il y a beaucoup de religiosité dans la façon de discuter ce sujet, où on a l'impression qu'il faut se racheter de son péché de confort pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais entre ces deux ports un peu fantasmatiques, au moins dans la façon dont elles sont formulées, on a du mal à trouver un idéal. Il y a une chute des grandes traditions politiques françaises, disons la tradition républicaine laïque d'un côté, la tradition catholique de l'autre, qui était fondatrice au fond qui était derrière les grandes familles de la gauche et de la droite. Et donc on est en peine et en panne de trouver une espérance et un leader pour s'imposer, pour trouver un charisme. Le charisme, originellement, ça veut dire don de grâce divine. Et donc vous, votre charisme vous vient de plus haut que vous, dans la tradition de Dieu, et aujourd'hui dans un univers cyclier, d'une espérance. Nos leaders sont en panne d'espérance. Je ne vois pas les espérances qu'ils proposent. Ils proposent de s'opposer à, ils s'opposent de lutter contre des menaces que chacun évalue, mais je ne vois pas l'espérance. Et ça, c'est un grand problème pour entraîner, pour être un leader qui a une légitimité et une autorité.
Les Américains disent la vision. Gilles.
Tout à l'heure, Thomas citait, en reprenant la formule de Régis Debré, ce qui menace nos sociétés, c'est deux choses, le chef et l'absence de chef. En quoi y a-t-il une absence de chef aujourd'hui? Parce que on a beaucoup de Français ont le sentiment qu'il y a plutôt un excès qu'un défaut de chef, qu'il y a un président de la République qui est omniprésent, qui exerce son pouvoir sur tout et sur toute chose. Un macroniste, mais même au-delà, peut dire, si on reprend vos différents traits, qu'il a du caractère, au sens où il est capable de prendre des décisions, qu'il a du charisme, au sens où il est brillant, et même qu'il a un idéal, et pour le coup, je rejoins votre question sur la fin, l'idée de bâtir une Europe souveraine, est-ce que ça n'est pas un idéal positif qui peut être une grande querelle?
Ça a eu été. L'espérance européiste a été une espérance des années, la fin des années 80, le début des années 90. Je ne suis pas convaincu que ça représente une espérance aujourd'hui, une forme d'idéal utopique. Je pense que les Français sont favorables à rester dans l'Union européenne et dans la zone euro, plus par crainte d'une sortie que par adhésion à une
encore
espérance.
Encore la peur,
vous avez tout à fait raison. Et donc, Emmanuel Macron, c'est pour ça, pour revenir au son qu'on écoutait, a du mal à faire de l'Union européenne souveraine, si ce n'est pas un oxymore, ce dont on pourrait discuter, a du mal à trouver dans son deuxième mandat un idéal mobilisateur. Et je crois que c'est pour ça qu'il a, percevant une réalité inquiétante, en effet, en Europe centrale avec la Russie, il a voulu se poser en chef.
Alors, mais pourquoi défaut de chef? Pourquoi pas excès?
Mais parce qu'un chef, ce n'est pas... c'était pas l'autoritarisme, fut-il dans le cadre légal. C'est l'autorité et la légitimité. Alors, prenons Emmanuel Macron et prenons ce qui m'a beaucoup frappé, qui a été une des sources de ce livre, la réforme des retraites. Voilà donc un président qui ne fait pas beaucoup de promesses pendant sa campagne, mais qui en fait une, qui est la réforme des retraites. Et le voilà arrivé au pouvoir, et qui au bout de 6 mois lance cette réforme des retraites, et qui se retrouve avec 70% des Français qui y sont parfaitement hostiles, et qui n'arrive jamais à trouver le moyen de, non pas faire accepter la réforme des retraites, mais de lui donner une légitimité. Et qui finit, comme on s'en souvient, par un vote en 49-3 qui renforce la légitimité de la réforme. Et donc, un vrai chef, il a de l'autorité et de la légitimité, et à un moment donné, il revient toujours devant le peuple pour trancher en cas de désaccord ou en cas de...
Enfin, vous venez quand même de dire que c'était dans son programme électoral, hein.
Oui, je suis bien d'accord avec vous. Mais quand vous avez... 70% de la population des défilés toutes les semaines ou tous les 15 jours qui réunissent plus d'un million de personnes. Et quand à l'évidence cette réforme n'est pas acceptée, à un moment donné, vous avez soit le Parlement, soit le référendum pour retrouver une légitimité. Ou alors vous acceptez l'idée que pendant 5 ans, quoi qu'il arrive, vous avez raison et que vous gouvernez sans le peuple. Et quand vous commencez à gouverner sans le peuple, en général, vous finissez par gouverner contre le peuple.
Deux choses, je répète, menacent une société, le chef et l'absence de chef. Et je précise que dans Gulliver, il y a les Lilliputiens, mais il y a aussi les géants.
Absolument.
Qui contraignent. Un mot sur les géants, peut-être, c'est qui les géants?
Les géants, ça pourrait être l'Union Européenne, ça pourrait être tous les pouvoirs aujourd'hui qui dépassent le pouvoir national. Puisque Gulliver, dans le roman de Sweet, est un géant parmi les Lilliputiens et effectivement devient tout petit parmi les géants. Et donc le problème d'un président de la République... et d'être face aux Lilliputiens citoyens, mais aussi face aux géants qui sont les contre-pouvoirs européens, les traités, tout ce qui fait qu'un président de la République, aujourd'hui, avant de prendre une décision, doit passer par un long cortège de consultations et de éventuellement d'empêchements.
Pas facile d'être un géant parmi les nains et un nain parmi les géants. Merci.
C'est un métier.
Merci beaucoup, Philippe Guibert, d'avoir été notre invité. Je cite votre livre que Natacha et Gilles ont adoré, Gulliver, enchaîné le déclin du chef politique en France, aux éditions du Cerf. Merci bien. Donc Gilles, merci à Natacha, vous. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier pour sa réalisation et aujourd'hui Clément Vuillet à la technique d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr.